Bonjour à toutes.
Bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezarme, Citifaine de Roquigny, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée ce matin par Charles Gergasson et mise en onde par Jean-Guilain Meige. Ce matin, pour clore notre série d'émissions autour des ponts, nous nous intéressons aux Balkans, là où les ponts ont des légendes, là où ils incarnent peut-être plus que nulle part ailleurs cette mosaïque de culture et d'influence, là aussi où ils ont été des cibles directes de la guerre avant d'être reconstruits pour panser les plaies et initier la réconciliation. Le pont de Mostar, réconcilier les vivants.
Mon fils et moi, nous nous tenions par la main. Nous avons vu les obus passer à côté de nous et s'en aller détruire notre vieux pont. Nous pleurions et je lui ai dit « n'oublie jamais ça ».
Le pont, c'était le lieu de rendez-vous des amoureux. C'était l'âme de cette ville. Vous comprenez, entre Mostar et son pont, il y avait comme une histoire d'amour.
Je pense que personne n'aurait pu imaginer qu'on puisse marcher comme ça sur les pierres du vieux pont et que le pont serait détruit. Mon plus grand rêve est de marcher sur ces pierres lorsqu'elles auront repris leur place et que le pont sera reconstruit.
J'ai l'impression qu'on revient lentement vers l'atmosphère d'avant la guerre. Je suis convaincu que la reconstruction du pont va renforcer le sentiment de l'unité de la population. Ici, nous sommes croates, musulmans et serbes, tous ensemble. On vit bien ensemble.
Le 9 novembre 1993, les ministres du Conseil de défense croate détruisaient le Stari Most, le vieux pont, ces vieilles pierres séculaires s'effondrant 30 mètres plus bas dans le fleuve Neretva. Construit en 1566 par les Ottomans, il était devenu le symbole du métissage et du cosmopolitisme de la ville jusqu'à ce que ses peuples européens se déchirent à mesure que la Yougoslavie se démantelait. La destruction de Mostar, littéralement la ville du pont, reste un symbole de ces guerres balkaniques et du retour brutal de la guerre au cœur de l'Europe. Sa destruction était sans nul doute ciblée, ce n'était pas un point de passage stratégique que l'on détruisait, mais un symbole, celui des échanges entre les populations et de l'entente entre communautés dans une ville multiethnique composée essentiellement de Croates, catholiques et de Bosniaques, musulmans mais aussi de Serbes. Bien sûr, dès avant la guerre, la République fédérale socialiste de Yougoslavie de Tito, armée de cette devise prometteuse, unité et fraternité, camouflait une réalité certainement plus complexe. Mais détruire le pont de Mostar, c'était porter un coup au multiculturalisme et au vivre ensemble. Alors ce coup a-t-il été fatal? Comment ce pont symbole peut-il devenir, redevenir un trait d'union entre Bosniaques et Croates? Quel impact aussi, bien sûr, la reconstruction retentissante orchestrée par la communauté internationale a-t-elle eu? Reconstruire, c'était promouvoir la paix, mais comment, 23 ans après, les Mostaris se sont-ils réappropriés leur vieux pont? Au-delà de Mostar, nous intéresserons également la ville de Mitrovica, ville industrielle du Nord, théâtre d'importants affrontements entre Kosovars serbes et Kosovars albanophones lors de la guerre du Kosovo. Là aussi, la communauté internationale décidait au début des années 2000 que pour lier ces communautés déchirées, il fallait reconstruire un pont, espérant créer un lien entre les différentes communautés. Le pont de Mostar, réconcilier les vivants, c'est notre sujet ce matin pour l'aborder. Avec nous en duplex depuis Chambéry, une invitée, Bénédicte Tranier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes chercheuse, enseignante à l'Université de Chambéry et au lycée du Granier. Vous êtes par ailleurs auteur du blog Géographie de la ville en guerre. Vous avez écrit un article intitulé « Des ponts entre les hommes, les paradoxes de géosymboles dans les villes en guerre ». Et vous écrivez notamment dans ce papier, cet article, l'efficacité géographique de la guerre ne se lit pas seulement dans les paysages de destruction et les stigmates qu'elle laisse ne sont pas comblés en même temps que la reconstruction du bâti. Les ponts deviennent alors de véritables géosymboles de l'inscription spatiale de ces stigmates par-delà le temps de la guerre. Peut-être un mot, Bénédicte Tranièque, sur ce qu'on entend précisément à travers ce concept de géosymbole et en quoi le pont de Mostar en particulier, selon vous, serait un géosymbole.
Oui, alors le terme de géosymbole a été proposé par un géographe qui s'appelle Joël Bonnemaison, qui partait du principe qu'on parle beaucoup de hauts lieux, c'est-à-dire de lieux auxquels on va donner une symbolique très forte, une identité forte, une identité dans laquelle on peut se reconnaître, Mais parfois, ça ne suffit pas de parler seulement de lieu. Et du coup, le terme de géosymbole va à la fois englober des hauts lieux, mais aussi des hauts espaces. C'est-à-dire que certains espaces peuvent avoir une symbolique tout aussi forte, porter quelque chose qui va permettre à la fois l'appropriation des habitants à cet espace, mais aussi leur appartenance, leur donner une identité. Et du coup, le terme de géosymbole permet un petit peu d'englober différentes réalités spatiales.
Et vous dites à propos du pont qu'il est souvent vu, analysé à travers ses dimensions historiques, urbanistiques, voire géopolitiques, mais que la géographie a un peu délaissé cet objet.
Alors, j'ai commencé à m'intéresser au pont, il m'est apparu assez fort que les géographes, quand ils s'intéressaient au pont, en parlaient en termes d'infrastructure. On a un objet dans l'espace, souvent en termes d'infrastructure qui manque. On va avoir une étude de géographie urbaine sur le manque d'un pont à Bordeaux, par exemple. Parfois, la géopolitique s'est bien emparée ces dernières années, vous en avez parlé dans les émissions précédentes, notamment à Istanbul, de la question très politique du pont, mais la dimension culturelle, son rapport aux habitants le rapport des habitants à ce pont qui se lie énormément à Mostar me semblait parfois oublié.
Vous rappelez que ce pont de Mostar, mais c'est aussi le cas finalement pour Mitrovica, il a été détruit pour ralentir les troupes adverses. Pour Mostar, c'est l'artillerie croate qui voulait empêcher le passage entre l'est et l'ouest de la ville. Mais il n'y avait pas seulement un enjeu militaire. Vous parliez de culture, d'enjeu culturel à l'instant. C'était aussi ça, l'enjeu culturel précisément.
Alors, dans le cas du pont de Mostar, c'est même avant tout un enjeu culturel, un enjeu symbolique. C'est vraiment marquer l'esprit, marquer le paysage, parce que ça se voyait, parce que cette destruction, elle a été retransmise par les médias du monde entier, parce que ça a été un choc à la fois à Mostar, à la fois en Bosnie-Herzégovine, mais par-delà. Il y a eu deux images très très fortes, hein, comme ça, pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Enfin, il y en a eu beaucoup, mais deux qui ont été beaucoup plus fortes. La destruction de la bibliothèque de Sarajevo et la destruction du pont de Mostar. C'est bien avant tout un enjeu symbolique parce que sur le pont de Mostar, on ne faisait pas passer de chars. Donc les enjeux militaires étaient quand même assez réduits. Contrairement, puisque Mitrovica a été évoquée, contrairement à d'autres ponts qui vont avoir des enjeux d'abord militaires, là on était vraiment dans la destruction du symbole du vivre ensemble, du symbole de ce qu'était Mostar, de qui étaient les Mostaris, du fait qu'ils pouvaient vivre tout à fait ordinairement, en fait, ensemble.
L'ancien maire de Belgrade, Bogdan Bogdanovic, qui était architecte et enseignant de profession, il avait parlé à propos de la destruction de Sarajevo d'herbicide. Est-ce qu'on peut parler à propos de Mostar d'herbicide? Comme si finalement, voilà, l'objectif militaire, c'était d'abord et avant tout le symbole précisément culturel.
Oui, alors juste peut-être pour préciser, l'herbicide, en effet, Bogdan Bogdanovic a été l'un des promoteurs de ce terme, de ce néologisme, mais plus généralement un groupe d'architectes auquel il appartenait, ou architecture, qui a fait beaucoup de travaux sur se demander pourquoi on avait détruit tel bâtiment, pourquoi on n'avait pas détruit tel autre, et est-ce qu'il n'y avait pas derrière des enjeux militaires aussi des enjeux symboliques. L'herbicide, donc c'est ce néologisme construit à partir de génocide, on remplace génos, le peuple, par urbi, la ville, on garde le suffixe cide, et l'idée c'est de dire qu'il y a un meurtre de la ville, mais pas de son bâti, on ne regarde pas en termes de destruction matérielle, mais un meurtre de ce qui faisait que cette ville avait une identité multiculturelle, avait une identité forte, avait ce vivre ensemble. Et du coup, pour Mostar, et le pont, la destruction de ce pont en est le symbole le plus fort. On a justement assisté à ce type de volonté de détruire par les symboles toute l'identité commune, tout le vivre ensemble, tout l'habité très ordinaire des Mostaris pour qui il n'y avait pas nécessairement de problème à partager une ville.
Je propose d'écouter Bénédicte Tranièk, Eri Di Luca, écrivain, poète italien, qui a effectué de nombreux voyages pour soutenir justement les populations victimes de cette guerre civile. Il se confiait très récemment sur France Culture dans cette émission à Voix Nue. Écoutez.
C'était un vieux pont d'époque bâti par les Turcs. C'était un arc blanc, de pierre blanc, qui réunissait les deux rivages de Mostar Est et Ouest. Est était le côté musulman et Ouest était le côté chrétien. Et c'était les Croates du côté chrétien qui visaient de détruire le vieux pont. Il avait déjà détruit tous les autres ponts de Mostar sur la Neretva. Et donc j'avais écrit un adieu à ce vieux pont d'Europe. Pour moi, le pont, c'est l'acte de construction le plus cordial qui existe. C'est le contraire du mur, le pont. Le mur sert à séparer et le pont pour à réunir les rives, les rivages et donc les rivalités, parce que les rivalités viennent des rivages opposés.
Le pont sert à réunir, disait Éric de Luca dans Voix Nue il y a quelques jours sur France Culture, évoquant ce retour de la guerre au cœur de l'Europe, évoquant ce pont de Mostar. Bénédicte Traniec, est-ce que avant la guerre, il existait une réelle mixité autour de ce pont, ou est-ce que déjà on avait des divisions, des fragmentations sous-jacentes?
Alors, il y avait déjà des quartiers, d'ailleurs, ce témoignage l'évoque, hein, sur le fait qu'il y avait de part et d'autre, pour un petit peu faire grossièrement, mais de part et d'autre de la rivière, il y avait deux quartiers où une population pouvait être un petit peu plus majoritaire. Mais justement, le pont, les habitants s'en étaient réellement emparés comme ce lieu où il n'était pas seulement traversé le pont, il était véritablement vécu. Il s'y passait beaucoup d'événements, on venait y discuter, on se mettait presque même en scène à discuter ici, parce que discuter ici, c'était un endroit où boire le café, c'était un endroit où on vivait véritablement comme un Mostari, comme un habitant de la ville du pont, et du coup ce pont était un très très fort symbole. J'ajouterais peut-être juste par rapport au témoignage que souvent le pont de Mostar est montré comme un pont ottoman, ce qui est tout à fait juste, mais il a aussi évolué dans le temps et il était d'un point de vue architectural, et il a souvent été montré par les architectes comme un pont qui était un symbole de plusieurs héritages, de plusieurs périodes historiques et du coup culturelles, de plusieurs temps de domination politique différent, et du coup un véritable symbole de toute l'histoire de Mostar et pas seulement d'un temps de l'histoire de Mostar. Donc ce serait dommage justement de le réduire à un pont ottoman, parce qu'il me semble que c'est un pont de toute l'histoire de Mostar.
Alors ce pont, justement, finalement, en 2004, il a été reconstruit sous l'égide de l'UNESCO. Atmosphère de fête, des chœurs d'enfants, un feu d'artifice pour célébrer la reconstruction de ce pont. Plus d'un millier de pierres taillées selon les techniques originelles qui ont été nécessaires pour reconstruire ce pont voûté, pour une somme de 12,5 millions de dollars financée par la Banque mondiale, les autorités locales, l'Italie, les Pays-Bas, la Croatie, mais aussi la Banque de développement du Conseil de l'Europe. Mais vous dites qu'il y a eu bien sûr cette reconstruction, mais que finalement la réconciliation, elle, se fait encore attendre, Bénédicte Traniec.
Alors la reconstruction du pont était très attendue et elle était tout à fait nécessaire, parce qu'il y avait un symbole très fort, et laisser ce pont détruit, et c'était comme laisser dans le paysage cette cicatrice et laisser la guerre quelque part. Mais c'est une interprétation, mais je ne suis pas la seule à le penser. Je pense notamment aux travaux de Sylvie Ramel, qui a écrit un mémoire sur cette question de sciences politiques. Il a peut-être quand même échappé. Cette reconstruction, elle a peut-être quand même échappé aux habitants, c'est-à-dire qu'elle s'est imposée par le haut. Les habitants avaient envie que ce pont soit reconstruit, c'est évident, mais peut-être aussi avait-il envie d'y participer à la reconstruction, et que ça ne soit pas juste la communauté internationale, par le haut, pas de très loin, qui viennent, qui reconstruisent, et qui, quelque part, les laisse un petit peu en dehors de ce symbole dans le temps de la reconstruction.
On les a un peu dépossédés, finalement, du symbole qui peut aller avec. Vous écrivez dans votre article, justement, que ce pont est devenu un point de non-passage, comme une négation même de son existence et de sa symbolique.
Alors l'article est un petit peu ancien, les choses ont aussi évolué, on est aujourd'hui en 2016. Ce que je voulais expliquer par là, c'était surtout le fait que aujourd'hui, le pont est traversé, c'est évident, on y voit beaucoup de touristes. Donc quand on y voit du monde, ce ne sont pas nécessairement que des Mostaris, et le fait de voir du monde ne suffit pas à expliquer la réappropriation ou la non-réappropriation. Mais il est surtout traversé, il est peut-être moins approprié. Je pense aux travaux d'un étudiant que j'avais encadré sur un master qui s'était intéressé aux graffitis et aux tags. Et son intuition de départ, c'était de se dire que tout était polarisé par le pont, que c'était vraiment le noyau central et que du coup, les tags, qu'ils soient autant pour la paix ou au contraire des tags très nationalistes qui sont plutôt pour la division, pour la séparation entre les communautés, il pensait les retrouver à proximité du pont du fait de sa symbolique. Et son étonnement, et du coup la conclusion de son mémoire, était de constater par toutes les cartes qu'il a pu faire que non, parce que justement ces tags et ces graffitis étaient un petit peu à l'extérieur, parce que le pont, c'est peut-être plus l'enjeu de la division entre les communautés et peut-être plus assez l'enjeu du vivre ensemble.
L'enjeu et l'actualité aussi, peut-être il faut l'évoquer ensemble. Il y a quelques jours, les Serbes de Bosnie ont été consultés pour savoir s'ils voulaient faire du 9 janvier leur fête nationale. Il y a un référendum, c'est d'ailleurs un référendum qui a été jugé invalide par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Les Bosniaques musulmans et les Croates catholiques s'opposent à cette date puisqu'elle correspond à une fête serbe orthodoxe, mais elle coïncide aussi avec la proclamation le 9 janvier 92 d'une république du peuple serbe. Donc on est trois mois avant la guerre de Bosnie. On voit qu'on est en présence ici d'un passé qui ne passe pas, pour reprendre la formule, et que finalement ce simple choix de cette fête nationale exacerbe les tensions entre les entités de Bosnie-Herzégovine, l'entité serbe et la fédération croato-musulmane. Derrière ce choix de fête nationale, on voit aussi cette menace politique qui continue d'être agitée, et notamment par le dirigeant nationaliste Milorad Dodik, qui milite pour l'indépendance de l'entité serbe. On voit que cette rhétorique nationaliste, elle joue à plein. Encore aujourd'hui.
Oui, on est encore aujourd'hui et peut-être justement plus aujourd'hui parce que le temps de la guerre est un petit peu plus loin et qu'une génération de jeunes n'a pas forcément vécu ou n'a pas les souvenirs de la guerre et sont peut-être plus malléables pour être manipulés dans leurs opinions. Finalement, cet événement autour de ce référendum et autour de cette journée, c'est un petit peu un épiphénomène dans le sens où la vie politique est rythmée par ce genre de décision et derrière ce qui est demandé par une partie des Serbes de Bosnie-Herzégovine, je dis bien une partie des Serbes.
À savoir un référendum d'autodétermination.
Voilà, c'est ça, c'est de se dire, puisque le Kosovo peut être indépendant, nous aussi on souhaite pouvoir avoir notre autodétermination et c'est vraiment ce qui continue à parasiter la vie politique de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine.
Vous pensez que ce référendum d'autodétermination pourrait avoir lieu, il faut le craindre ?
Alors, la communauté internationale, pour l'instant, fait barrage et fait barrage depuis la fin de la guerre, puisque c'est pas une idée nouvelle. Et elle fait notamment barrage parce que la Bosnie-Herzégovine fonctionne d'un point de vue politique comme un protectorat caché, dans le sens où on ne dit pas que c'est un protectorat, mais il y a quand même au-dessus de toutes les entités politiques existantes en Bosnie-Herzégovine, le haut représentant des Nations Unies qui continue de décider et la communauté internationale a tout de même un poids encore très lourd. Donc pour l'instant, tout référendum est refusé par la communauté internationale. Mais ce qui s'est passé au Kosovo a ouvert une brèche, puisqu'il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination justement.
On reparlera tout à l'heure du Kosovo, mais est-ce qu'il n'y a pas une chose qui pourrait justement protéger de ce fameux référendum d'autodétermination, même si vous nous dites que pour le moment, d'un point de vue constitutionnel finalement, il ne serait pas possible. La semaine dernière, l'Union européenne a enfin accepté la demande d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Sarajevo devient donc officiellement candidat, alors que les autres pays l'étaient déjà depuis longtemps, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, l'Albanie, les autres étaient déjà membres, la Slovénie depuis 2004 et la Croatie depuis juillet 2013. Tous les pays des Balkans ont vocation à intégrer l'Union européenne. C'était le sens de la déclaration du sommet de Thessalonique en juin 2013. Est-ce qu'on peut espérer que la Bosnie-Herzégovine devienne membre de l'Union européenne? Et est-ce que précisément ça pourrait être une garantie, d'une certaine manière, pour éviter une forme d'éclatement de cette Bosnie-Herzégovine?
Alors, les chercheurs les plus optimistes voient justement l'avenir de la Bosnie-Herzégovine et plus généralement de cette ex-Yougoslavie qui s'est décomposée dans l'Union européenne, c'est-à-dire abolir certaines frontières étatiques permettrait certains rapprochements entre les populations et permettrait aussi au nationalisme de se dissoudre un petit peu, puisque sur fond, ces nationalismes s'appuient aussi sur des fonds de crise économique et de problèmes, comme un petit peu partout en Europe, de problèmes sociaux qui leur permettent à ces nationalismes de faire reposer la responsabilité sur l'autre. Alors l'autre, ça peut être le bosniaque, ça peut être le serbe, ça peut être le croate, ça peut être le rom, ça peut être le goran. Il y a beaucoup d'autres dans les Balkans. Mais pour les chercheurs les plus optimistes, ceux qui espèrent qu'il y aura une solution, cette solution passe par l'Union européenne et par une intégration à l'Union européenne.
Très bien, pour les chercheurs. Mais qu'en pensent les bosniens? Qu'en pensent les serbes, les croates, les bosniaques? Est-ce que l'Europe fait rêver?
L'Europe fait rêver, non. On est sur des pays qui sont eurosceptiques, mais d'autres pays eurosceptiques sont rentrés dans l'Union européenne récemment. Donc, on n'est plus sur une adhésion de type ce qui s'est passé pour la Croatie, où on se dit que c'est le moins pire, si vous me permettez l'expression. Après, il y a aussi... Si je prends par exemple le cas de la Bosnie-Herzégovine, il y a aussi des déceptions énormes vis-à-vis de l'Union européenne avant même de rentrer dans le processus. La Bosnie-Herzégovine a subi de très graves inondations il y a 2 ans maintenant. L'Union européenne avait promis une aide assez conséquente et cette aide s'est fortement fait attendre. Donc c'est des États qui ne sont pas encore dans l'Union européenne et qui en connaissent déjà certains dysfonctionnements. Et les populations, elles... ne croit pas nécessairement que tout se résoudra par l'Union européenne. C'est peut-être la solution du moindre mal.
Revenons-en à l'objet qui nous intéresse, le pont. Et parlons de Mitrovica, la ville donc dans le nord du Kosovo, qui est l'archétype de cette ville divisée entre Serbes d'un côté, en l'occurrence au nord, et Albanais de l'autre au sud, avec au milieu la rivière Ibar. Mitrovica a été au cœur des violences intercommunautaires entre les deux communautés lors de la guerre du Kosovo en 1999. La communauté internationale a voulu, là aussi, reconstruire un nouveau pont en lieu et place d'un autre petit pont qui avait été détruit. On refait un pont bien plus grand, d'ailleurs beaucoup plus ostentatoire, avec de gros éclairages la nuit. Mais en l'occurrence, ce pont n'avait pas la portée symbolique de celui de Mostar. Alors pourquoi l'avoir reconstruit et surtout pourquoi avoir essayé de lui conférer à ce pont cette dimension de réconciliation et du vivre ensemble alors qu'il ne l'incarnait pas forcément avant la guerre?
Parce que justement, le pont, et il est vrai que le pont relie là où le mur sépare, et c'est un moment où la communauté internationale imagine vraiment la symbolique du pont comme quelque chose qui, dans l'architecture, dans le paysage, va être efficace. Il y a aussi des lobbying derrière, il y a des gros constructeurs qui sont très intéressés par ce type de chantier et qui peuvent aussi agir sur la communauté internationale. Il y a des enjeux financiers évidents, mais on est aussi là dans un moment où on peut parler d'un paradigme du pont, c'est-à-dire que le pont imposerait la paix, la réconciliation. Et le dernier point, la communauté internationale qui avait du coup énormément impliquée en Bosnie-Herzégovine à mon sens, un petit peu traiter le dossier du Kosovo comme s'il s'agissait de la même chose. Avant, c'était un grand État, la Yougoslavie. Donc, les problématiques sont un peu les mêmes. Là-bas, on a fait un pont. Bon, là, il n'y en a pas. Mais, on peut en faire un ici. Et c'est un peu les mêmes habitants, c'est un peu les mêmes disputes. Et ce n'était pas le cas. Et justement, il y a un gros problème là-dessus d'avoir un petit peu pris les recettes qu'on avait fait en Bosnie-Herzégovine et de se dire, c'est bon, on peut les appliquer au Kosovo sans trop de réflexion. D'ailleurs, je caricature un petit peu.
D'ailleurs, vous dites que les gens n'ont pas du tout compris qu'on se consacre autant à ce pont alors qu'il y avait tant de choses à faire, peut-être d'autres choses au niveau des logements, des bâtiments publics, etc. On n'a pas compris, en fait.
Ah bah, il faut dire que lorsqu'il a été reconstruit, vous avez employé le terme d'ostentatoire, c'est clair et net, on est sur un espèce de pont Disneyland en plein milieu d'une ville qui est assez pauvre, qui a longtemps été à proximité même, les bâtiments à côté même du pont étaient détruits, un bâtiment comme le gymnase ou comme le centre culturel où on aurait pu imaginer faire des rencontres sportives, par les règles du sport, essayer de reconstruire des choses, le centre culturel de la même façon, et c'était des reconstructions qui coûtaient beaucoup moins cher. Et ce pont est reconstruit là, dans le plus grand gigantisme possible, alors que c'était une plaque de béton sur laquelle roulaient quelques voitures. Enfin, et tout d'un coup, on impose un symbole extrêmement grand et surtout extrêmement coûteux.
Et non seulement c'est un échec, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout symboliser cette réconciliation, mais en réalité, au cours du temps, il va devenir plutôt même un symbole de division. C'est un lieu de rassemblement pour les contestations. On s'y retrouve aux alentours avec parfois des explosions de violence, à tel point qu'il faut le faire garder par des soldats étrangers. C'est devenu en réalité un symbole de division.
Oui, il faut rappeler que ce pont, après sa reconstruction, a quand même pendant des années été fermé avec des barricades, avec des barbelés. C'est très violent, hein, le barbelé, avec des chars de la KFOR, donc l'OTAN qui intervenait au Kosovo alors, et donc des militaires étrangers. Et ce pont était complètement barricadé. Seuls les internationaux qui montraient leur petit passeport pouvaient passer. Donc, on a quand même construit un pont qui a été très rapidement approprié comme, bah super, on a un grand boulevard pour passer de l'autre côté. Et pour les nationalistes, le passer de l'autre côté, c'était aller taper sur l'autre. Donc, c'est devenu assez gênant très rapidement. Il a été complètement barricadé. Aujourd'hui, il est ouvert. Mais ce qui m'avait frappé, c'était en 2009 ou 2010, il faudrait que je revérifie, une petite plaque a été posée à l'entrée de chaque pont. Alors, toute petite, elle ne se remarque pas. Et alors, quand on pense à l'ostentatoire de ce pont, voir cette toute petite plaque, on peut vraiment passer à côté. Et la communauté internationale a marqué sur cette petite plaque, puisse un jour ce pont faire le lien. Il m'a semblé que c'était un aveu de l'impuissance de ce pont qui a été pensé à côté de la plaque.
Comme si on savait pertinemment que finalement tout cela était une douce utopie. D'une rive à l'autre, histoire de pont, le pont de Mostar réconcilier les vivants. On est avec Bénédicte Traniec.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Pont de Mostar, mais aussi pont de Mitrovica. On va aller justement à Mitrovica avec Arfedita Sile. Elle habite au sud de ce fameux pont et surtout elle dirige une ONG, Community Building in Mitrovica, qui vise à rassembler les communautés, notamment les plus jeunes, par le biais d'activités culturelles, d'activités sportives, dans une ville où au nord, rappelons-le, les services publics, dont les écoles sont encore financées par le gouvernement serbe. Arfedita Sile mise donc sur la jeunesse pour construire des ponts justement, mais déplore l'inertie des gouvernements locaux. On la retrouve, elle est au micro de Clément Salazar.
Depuis la guerre, le fossé perdure, la confiance a été brisée et les deux communautés, serbes et albanaises, sont profondément divisées. Community Building in Mitrovica a été mis en place dans le but de rassembler ces deux communautés, de les faire dialoguer et coopérer. Dans notre organisation, nous travaillons ensemble, serbes et albanophones. Les serbes traversent le pont tous les jours pour venir au bureau. Et notre bureau est très proche du pont principal, ce pont devenu célèbre. Notre organisation a 15 ans et évidemment beaucoup de choses se sont passées entre 2001 et 2016. En 2001, quand nous avons commencé, nous ne sommes partis de rien. En fait, nous avons même commencé dans deux bureaux séparés, un au nord et l'autre au sud. Tout était séparé. Et puis au bout d'un an, nous avons réuni les bureaux. Il faut aussi savoir que les gens ne traversaient presque jamais ce pont. Il y avait seulement une zone de confiance où les gens pouvaient aller, seulement ceux qui travaillaient avec des organisations internationales ou des organisations locales comme la nôtre, afin qu'on puisse quand même circuler. Maintenant, les conflits, les tensions ont diminué. Et bien sûr, il y a eu plusieurs accords qui ont amélioré la situation, dans le sens où les gens ont commencé à s'intéresser à cette réalité, au fait qu'ils doivent savoir vivre proches les uns des autres. et vivre en paix. Mais malheureusement, ce message n'a pas été directement diffusé par nos institutions. C'est surtout l'Union européenne qui a poussé pour cet accord et qui pousse les populations à s'intégrer davantage.
Vous faites référence à Ferdi Tassile, à un accord signé en avril 2013 entre Pristina et Belgrade. Cet accord, il a été largement facilité par l'Union européenne, mais qu'est-ce qu'il a changé concrètement à Mitrovica pour les populations ?
Alors la police kosovarde existait avant l'accord, mais ce sont les polices du Nord qui auraient dû être dissoutes pour s'intégrer aux autres forces de sécurité du Kosovo. Toutes les autorités judiciaires devaient être intégrées dans le cadre légal du Kosovo. Une partie de la cour d'appel devait siéger à Mitrovica Nord. Et on attend. Mais dès le début, et en fait encore aujourd'hui, les gens ne savaient pas très bien et ne savent toujours pas ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment eu de véritable explication. Qu'est-ce que ça va signifier concrètement sur le terrain ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les populations ? Certains avaient peur et ont toujours peur de perdre leur emploi, que leur diplôme ne soit pas reconnu par l'un ou par l'autre côté. Dans le Nord, il y a encore des voitures avec des plaques d'immatriculation serbes et des voitures sans plaques du tout. On paye en dinars et il y a des doubles standards. En fait, c'est un peu comme si plein de choses se passaient, mais davantage dans les journaux que sur le terrain.
Ce pont à Ferdi Tassile, comment les habitants de Mitrovica se l'approprient ? Il y a 2 ans, par exemple, des affrontements y avaient éclaté au lendemain d'un match houleux entre Albanie et Serbie lors des qualifications de l'Euro 2016. Est-ce que c'est courant ? Est-ce que ce pont, finalement, il est plus un symbole de division que d'union entre les deux rives ?
Oui, mais il y a quelque temps, les tas de barricades qu'il y avait sur le pont ont été remplacés par un parc de la paix. Alors là, nous sommes en phase d'innovation, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Est-ce que ça va encore créer des tensions ? Par contre, il y a beaucoup de constructions autour du pont, aussi bien au nord qu'au sud. Mais quand on parle aux gens, ils nous disent on ne sait pas ce qu'il se passe.
Mais alors ce pont, est-ce qu'il est traversé désormais ?
Oui, alors le pont, il est traversé tous les jours, et ce, de plus en plus. Il y a davantage de gens qui vont d'un côté à l'autre, même si ce n'est bien entendu pas encore satisfaisant. Beaucoup de personnes ne traversent toujours pas ce pont. 16 ans après la guerre, ils ne refusent de le traverser, et l'intérêt, la curiosité pour l'autre côté reste très faible. Par exemple, moi j'ai vécu au nord avant la guerre, et en février 2000, j'ai dû déménager au sud pour trouver un travail après la guerre. Ma famille et moi, nous sommes allés vivre donc dans le sud. Mais 16 ans après la guerre, ma famille, enfin la plupart d'entre eux, ne traversent toujours pas le pont. Ils ne peuvent pas aller voir leur ancien appartement, car il est occupé. Alors de toute façon, pourquoi aller là-bas ? Quel est l'intérêt quand on a reconstruit sa vie ailleurs ? En fait, ce pont est moins un symbole d'union que de division. Il est parfois utilisé pour des manifestations, pour des protestations. Il vient nous rappeler que ces tensions sont loin d'être finies. Il y a des personnes à Mitrovica, que ce soit au nord ou au sud, qui ne traverseront jamais ce pont. Depuis la guerre, ils n'ont aucune idée de qui sont les gens de l'autre côté, de comment ils vivent. Ils ont cette perception que ces gens-là sont mauvais et ils ont peur d'y aller. Même avec le récent accord et tout ce qui se passe, cela vient avant tout de l'extérieur, pas de l'intérieur des communautés. Et les signaux qu'envoient les deux gouvernements ne sont pas bons du tout. Alors bien sûr, les tensions ne peuvent pas s'apaiser.
On entendait à l'instant Arfedita Sile, directrice de cette ONG Community Building in Mitrovica, au micro de Clémence Alézard. Bénédicte Traniec, je voudrais peut-être vous entendre. Alors évidemment, il y a tout ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que ce pont n'est peut-être pas ce symbole de réconciliation que la communauté internationale espérait, mais les choses s'améliorent. Elle nous dit elle-même que ce pont, il est de plus en plus traversé. Bénédicte Traniec, depuis Chambéry. Bénédicte Traniec, en duplex depuis Chambéry, est-ce que vous nous entendez ? Apparemment, nous avons perdu Bénédicte Traniec, donc on va la retrouver dans quelques instants. Bah tiens, peut-être pour patienter, on va, vous allez écouter une toute petite musique, une musique traditionnelle albanaise qui est intitulée Tukman Kuj, qui est jouée ici par deux jeunes hommes au fin fond des Alpes albanaises. C'est une musique qui a été enregistrée cet été par Clément Salazar, justement. Thank you. une petite musique traditionnelle prise sur le vif par Clément Salazar lors de ses pérégrinations albanaises cet été. On n'arrive pas à refaire la connexion avec le duplex de Chambéry, alors on va se retourner vers un nouvel invité qui était déjà avec nous en attente, mais qu'on va retrouver très bientôt pour parler de pont dans la littérature balkanique. Parce que le pont, il peut avoir des symboliques différentes. Il peut tantôt incarner la menace, celle que représente par exemple l'envahisseur, comme chez l'auteur Ismaïl Kadaré, et d'autres fois il peut représenter l'échange, le mélange, le métissage, la source de toutes les richesses, comme chez Ivo Andrić, écrivain yougoslave d'origine bosniaque et prix Nobel de littérature en 1961.
Ma patrie est en effet un petit pays entre le monde, comme l'a pertinemment qualifié un de nos écrivains. Un pays qui brûle en les étapes, au prix de grands sacrifices et de prodigieux efforts, tâche à rattraper dans tous les domaines et dans le domaine de la culture également, ceux dont un passé particulièrement courageux et hostile l'a privé. Par les choix du lauréat, vous venez de jeter une vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où, par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale.
Voilà, extrait du discours pour la remise du prix Nobel de littérature en 1961 à Ivo Andrić. On va le voir, la symbolique du pont dépend assez largement du point de vue que vous prenez, le point de vue yougoslave, État-nation de facto composée, mélangée, métissée, ou du point de vue albanais, petit territoire souvent occupé, dominé par l'Empire ottoman, l'Italie, etc. On va mettre deux auteurs en regard, Ismaïl Kadaré et Ivo Andrić. Et pour ce faire, on accueille Jean-Paul Chancet. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite de littérature comparée, vous êtes un spécialiste de la littérature balkanique et notamment d'Ismaïl Kadaré. Vous avez écrit cet article, Un pont dans la tourmente balkanique, Ivo Andrić et Ismaïl Kadaré. Donc on va mettre en face ces deux auteurs, vous proposer une comparaison autour de la place du pont dans leurs œuvres. Ils ont tous les deux écrit autour du pont. Le pont sur la Drina pour Ivo Andrić, qui est né en 1892 et mort en 1975, et puis le pont aux Trois Arches pour Ismaïl Kadaré, qui est né, lui, en 1936. Ismaïl Kadaré, c'est un écrivain albanais. Après des études de lettres à Tirana, puis à Moscou, il revient en Albanie sous l'effet de la rupture entre la Yougoslavie de Tito et l'URSS de Staline. Cette rupture, c'est d'ailleurs un thème qu'il aborde dans un ouvrage précédent paru au début des années 70, L'hiver de la grande solitude, qui dès sa sortie en fait va provoquer un tollé. Kadaré écrit donc le pont aux Trois Arches en 1976. Le titre du livre, c'est aussi bien sûr une référence au livre de son aîné Ivo Andrić. Il s'inscrit aussi dans une perspective finalement de rivalité avec lui. D'ailleurs, il l'évoque dans son livre, Jean-Paul Chancet.
Oui, absolument. Kadaré a toujours reconnu que pour lui, Ivo Andrić était un maître. Ivo Andrić avait utilisé une légende balkanique, l'emmuré du pont, et il avait idée de rivaliser, mais en même temps de faire tout autre chose, parce que comme vous le suggériez, leurs points de vue sont extrêmement différents. Ivo Andrić considère le pont. Alors, à la manière de votre premier interlocuteur lors du début de l'émission, dans Le pont sur la Drina, Ivo Andrić, dont le roman se passe largement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec la guerre de 14, pour Ivo Andrić, le pont est véritablement un belvédère et les gens s'y rencontrent, les communautés juives, chrétiennes, musulmanes s'y croisent, discutent, boivent, les enfants jouent sur ce pont et c'est vraiment le lieu de la convivialité. Et le mal va arriver du côté de l'Europe avec tout d'abord les ferments nationalistes qui vont séparer les communautés, qui vivront de moins en moins ensemble, et ensuite avec l'année 14 hein, qui va voir la destruction du pont et la cassure durable qui existait à partir de ce moment-là entre les communautés.
Peut-être que d'ailleurs la menace pour Kadaré vient davantage de l'Est, alors que pour Ivo Andrić, elle est plutôt en provenance de l'Ouest. Mais en tout cas, vous écrivez que Kadaré compose le pont aux Trois Arches pour répondre à une préoccupation lancinante, je vous cite, « Suite à la révolution culturelle d'inspiration maoïste, très destructrice des coutumes, des croyances, de l'artisanat et de l'architecture, l'écrivain voulait préserver le souvenir d'une Albanie que le pouvoir cherchait opiniâtrement à anéantir. Il s'agit pour lui, très clairement, de faire revivre une Albanie, une certaine albanité qui est en train de disparaître. »
Ah, tout à fait. Là, le projet est double. Il va dénoncer, évidemment, comme souvent le régime albanais, alors avec une double lecture qui demande évidemment du lecteur une certaine connaissance de la situation et un certain effort. Mais d'autre part, vous avez tout à fait raison, il voulait, comme il le dit, redorer l'icône, c'est-à-dire faire revivre cette Albanie historique du Moyen-Âge avec ses châteaux, ses auberges, ses paysages que le régime cherchait à détruire.
Chez Kadaré, ce pont, et puis ensuite on va en venir à cette fameuse légende de l'an muré et voir comment elle est utilisée chez l'un et chez l'autre. Mais d'abord, chez Kadaré, ce pont, il est également le lieu qui provoque la tourmente linguistique. Vous dites que c'est une sorte de tour de Babel à l'envers où finalement les bâtisseurs du pont parlent déjà des langues différentes. Expliquez-nous peut-être en quelques mots cette tourmente linguistique.
Oui, alors chez Kadaré, c'est un élément fondamental. Il considère que ce qui fait l'Albanie, c'est la langue albanaise, et que tout ce qui peut la menacer est quelque chose d'absolument terrible. Alors, il est vrai que la langue albanaise aurait pu disparaître, puisque au XIXe siècle, il n'y avait que très peu d'écoles albanaises, vraiment une ou deux dans le sud du pays, et encore qui connaissaient des difficultés parce que les langues qui étaient valorisées étaient les langues de religion. Donc l'italien, le latin pour les catholiques, le turc, l'arabe pour les musulmans, le grec pour les orthodoxes. L'albanais, c'était la langue du peuple méprisé, et c'est vrai qu'elle aurait pu s'effacer. Alors, Kadaré, très effrayé de cela, craint le babélisme parce que, et il le montre dans son roman, il montre que les ouvriers parlent un salmigondi, et donc il y a toujours ce risque de voir la langue disparaître, et pour Kadaré, si la langue disparaît, c'est l'Albanie tout entière qui sombre.
Donc chez Kadaré, on voit que ce pont, il est néfaste, c'est une menace pour l'Albanie, c'est une menace pour la langue albanaise, alors que chez Andrić, le pont, il est bâti après la conquête ottomane, mais il est accepté par les villageois, il constitue un espace de socialisation autour de cette capia, cette terrasse où on se rassemble.
Ah, tout à fait. C'est un lieu fort agréable, c'est le lieu de la civilité, c'est le symbole, hein. C'est le symbole de la raison et des forces conciliatrices. Alors que pour Kadaré, la symbolique est très différente. Alors d'abord, un pont, c'est plat. Et pour Kadaré, la platitude, c'est le symbole de ce qu'il considère comme le totalitarisme asiatique. Et il considère que l'Empire ottoman arase et transforme les montagnes en poussière. Et donc, ce pont est une avancée ottomane qui va araser l'Albanie. Et d'ailleurs, il souligne que le pont n'est qu'un point de fixation, parce que ce qui va compter, c'est la route. Et la route qui, bien sûr, sera la route des envahisseurs qui vont ramener l'Empire ottoman, et alors pour Kadaré, l'Asie, d'abord aux frontières de l'Albanie, et puis ensuite, ses forces vont conquérir l'Albanie. Alors pour bien comprendre cela, il faut considérer que pour Kadaré, les difficultés viennent toujours de l'Orient. Alors d'abord avec les Perses contre les Grecs, avec l'Empire ottoman contre les féodaux balkaniques. Ensuite, ce sera l'Union soviétique. Et pour terminer, l'empire maoïste, puisque la révolution culturelle sera importée en Albanie par le dictateur Enver Hoxha, qui va causer là des dégâts tout à fait épouvantables. Alors la perception de Kadare est celle-ci, c'est qu'il a toujours le sentiment que l'Asie arrache l'Albanie à l'Europe. Et c'est effectivement quelque chose qui revient régulièrement dans son œuvre.
Alors Jean-Paul Chancet, venons-en justement à la légende de l'Emmuré, chez Andrich et chez Kadare, puisque les deux auteurs convoquent cette légende de l'Emmuré, qu'on trouve d'ailleurs un petit peu partout en Europe, dans des versions différentes, mais qui en gros raconte cette nécessité d'emmurer un être humain dans un édifice pour lui assurer finalement une certaine protection. La légende de l'Emmuré, elle diverge entre les deux auteurs. Racontez-nous.
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'en font pas la même utilisation. Alors, à la base, elle est identique, c'est-à-dire que on construit, alors non pas un pont, mais un château. On construit un château, et puis malheureusement, la nuit, ce que l'on a construit le jour s'effondre. Et il va y avoir un saint homme qui passe par là et qui va dire aux trois frères maçons, eh bien, il y a là un problème, il faut un sacrifice, et il faut que l'on sacrifie l'une de vos femmes. Alors, demain, nous sacrifierons, eh bien, la femme qui vous apportera votre repas. Mais bien sûr, vous n'en parlez pas à vos femmes. Les maçons prêtent serment, mais les deux plus âgés ne le respectent pas, ils préviennent leur femme, et c'est la femme du Benjamin qui arrive et qui est sacrifiée. Alors, elle est sacrifiée d'une manière évidemment assez particulière, c'est-à-dire que on va laisser dépasser de la prison dans laquelle on va la murer, on va laisser dépasser un œil pour qu'elle puisse voir son fils, une main pour qu'elle puisse caresser sa tête, un pied pour qu'elle puisse bercer le berceau et un sein pour qu'elle puisse le nourrir. Et elle accepte ce sacrifice parce que elle considère que son fils pourra avoir un magnifique château, deviendra un seigneur et pourra guerroyer. Alors voilà la légende, c'est à peu près la même dans les Balkans. Et évidemment, les auteurs ne vont pas l'utiliser de la même façon. Ivo Andrić va avoir une idée assez attachante, c'est que il a évoqué l'emmurement d'une mère qui a des jumeaux, et donc, alors on voit bien là déjà l'idée de division entre les communautés, mais Andrić ne va pas tellement insister sur la légende. Il va d'ailleurs en trouver une variante. On va penser à un moment qu'il y a un noir terrible qui a été lui aussi emmuré et qui peut effrayer les ouvriers. Et là, en fait, ce serait le lointain souvenir d'un maître d'œuvre qui aurait été écrasé par une pierre.
Ce qu'on comprend très bien, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais je voudrais peut-être conclure en quelques mots. Alors, non, mais juste ce qui me frappe dans ce que vous dites, Jean-Paul Chancet, c'est que on voit bien que on convoque cette légende-là, on n'utilise pas de la même manière. D'une certaine manière, avec Andrić, on se montre, disons, nuancé, distancé vis-à-vis de cette légende et peut-être des légendes en général, alors chez Kadare, au contraire, on leur confère une grande importance. Mais en revanche, là où on les retrouve l'un et l'autre, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit bien que pour les deux, la bataille, elle se situe moins sur le plan purement militaire que sur le plan culturel, avec bien sûr deux approches opposées. L'un qui adopte cette posture multiethnique, multiculturaliste, alors que l'autre est bien sûr dans une défense d'une identité nationale, en l'occurrence albanaise, qui serait menacée. Mais on voit bien que pour les deux, le combat est avant tout culturel.
Oui, absolument.
Jean-Paul Chancet.
Absolument, c'est-à-dire que d'un côté, pour Andrić, c'est la fin d'une quiétude. Et effectivement, son livre a repris une actualité étonnante. Hein. Le pont sur la Drina ne peut plus se lire maintenant comme avant la guerre de Yougoslavie. Chez Kadare, donc, il y a le double combat. Hein. Il y a le combat contre la dictature et le combat pour essayer de préserver l'identité albanaise. Alors, la légende chez Kadare est vue d'une manière tout à fait différente, puisque aussi bien ceux qui sont pour le pont que contre le pont vont utiliser la légende, la manipuler pour essayer d'abuser les pauvres Albanais naïfs, et on finira par emmurer un saboteur, celui qui a voulu saboter le pont. Donc il est emmuré par ceux qui l'ont tué, et il est considéré comme celui qui doit sauver le pont. Évidemment, ça ne se passera pas du tout comme ça, et Kadare s'insurge contre ces manipulateurs de légendes. Alors on peut y voir aussi derrière les manipulateurs de l'idéologie, hein, naturellement. Et ces manipulateurs de légendes, d'ailleurs, ne savent pas ce qu'ils font, puisque, en fait, ils vont laisser place aux envahisseurs ottomans qui vont détruire l'Albanie. Et ce malheureux emmuré du pont, eh bien, sera le seul Albanais hiératique qui restera tel qu'en lui-même. Il assistera en spectateur à l'invasion, mais lui gardera malgré tout son intégrité.
Pour mieux comprendre justement cette manipulation de part et d'autre, j'invite les auditeurs à lire ces ouvrages s'ils n'ont pas encore fait. Ivo Andrić, Le pont sur la Drina, mais aussi Ismaël Kadare, peut-être moins connu, Le pont aux trois arches. Merci beaucoup Jean-Paul Chancel d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à Bénédicte Traniec qui était avec nous en duplex depuis Chambéry jusqu'à ce que la ligne se coupe. Mais en tout cas, on a pu échanger. Donc un grand merci en tout cas aux techniciens qui étaient à Chambéry et qui ont assuré ce duplex. Je rappelle, Bénédicte Traniec qui est chercheuse, enseignante à l'Université de Chambéry et au lycée du Granier. Merci à elle. Il est 11h presque 53 minutes, l'heure de retrouver comme chaque jour sur France Culture, dans Culture Monde, le tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Un tour du monde cette semaine qui s'intéresse à la question de la méritocratie. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors comment les débats, regardons un peu l'actualité du côté américain, comment les débats autour de la méritocratie se traduisent dans la campagne américaine pour les présidentielles, Brice?
Eh bien c'est un peu là où je voulais en venir, figurez-vous, parce que c'est central. Edward Luce, un journaliste et essayiste britannique spécialiste des États-Unis, décryptait récemment pour le Financial Times l'opposition entre Donald Trump et Hillary Clinton à travers ce prisme. La candidate démocrate, écrivait-il, est la porte-parole de la méritocratie. Au contraire, Trump, qui a réussi une OPA hostile sur le parti républicain, j'aime bien l'expression, mise sur le ressentiment des blancs pauvres envers ce qu'ils perçoivent comme une trahison des élites. C'est le candidat anti-méritocrate. Le Parti démocrate est devenu au fil des ans le défenseur des femmes, des minorités ethniques et des jeunes diplômés. De parti de classe, il s'est transformé en coalition ethnique veillant sur la discrimination positive en faveur des non-blancs, écrit Edward Luce. Or, Obama lui-même a reconnu que l'affirmative action gagnerait à présent à prendre désormais pour critère les revenus plutôt que la couleur de peau. « Mes propres filles ne devraient pas en bénéficier », a dit le président sortant, et pour lui donner raison, Malia Obama, sa fille donc, vient d'être acceptée à Harvard, où Obama, rappelons-le, fut rédacteur en chef de la prestigieuse Harvard Law Review. L'éditorial de la revue The Hedgehog Review, dont je parlais déjà, le hérisson, est également consacré à ce sujet. La critique des élites joue un rôle essentiel dans le climat politique actuel aux États-Unis, y lit-on. Dans cette société traditionnellement méritocratique comme la nôtre à nous français, où dominait l'idée qu'en se donnant du mal et en ayant un peu de chance, tout le monde pouvait réussir socialement, s'est fait ces derniers jours un véritable désenchantement.
C'est intéressant, Brice, ce que vous dites à propos d'Hillary Clinton, qui serait la porte-parole de la méritocratie, alors qu'elle incarne en réalité le système et que Donald Trump a beaucoup joué là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, vous parliez de désenchantement. Pourquoi ce désenchantement, Brice?
Eh ben, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'un certain nombre de gens ont le sentiment qu'au cours des années passées, tout simplement, les élites ont échoué. De la guerre d'Irak à la crise financière de 2008, leurs échecs se sont même accumulés, sans que les responsables acceptent de reconnaître leur part de responsabilité. En outre, ces élites ont fort bien tiré elles-mêmes leur épingle du jeu, maximisant leurs avantages, tandis que les revenus des catégories sociales moyennes et inférieures, comme on sait, au mieux stagnent, au pire déclinaient aux États-Unis. Enfin, un système de sélection basé sur les compétences attestées par des titres universitaires était censé produire des dirigeants éclairés, recrutés de manière égalitaire parmi toutes les classes de la société. Ce n'est plus du tout le cas. Les élites ont refermé la porte derrière les derniers entrants. La confiance envers la méritocratie est ébranlée. Les membres de l'élite sont distants, toujours plus égoïstement à l'écart, lit-on dans ma revue du Hérisson. Ils sont déracinés, leur horizon est global, ils négligent le local et ne sont loyaux ni envers leur nation, ni envers leurs concitoyens. En outre, à cause du système économique dit du « winner take all », le gagnant rafle tout, les vainqueurs de la compétition sont exagérément récompensés. Et ça est d'ailleurs le sens général de l'essai que publie dans cette même revue Wilfred McClay, le directeur du Centre d'Histoire de la Liberté à l'Université d'Oklahoma. Il rappelle que les États-Unis ont été fondés par des personnalités qui haïssaient les aristocraties européennes et entendaient créer une nation où, je cite, « les hommes de mérite, quelles que soient leurs origines, pouvaient prétendre aux plus hautes responsabilités. »
Mais vous parlez d'hommes de mérite. Qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par mérite ici ?
Eh bien, c'est toute la question. L'historien Joseph Kett a étudié l'histoire de cette notion de mérite dans le contexte américain des pères fondateurs jusqu'au XXe siècle. Et sa conclusion, c'est que par mérite, les Américains ont toujours entendu deux choses assez différentes. Le mérite renvoie pour les uns à des capacités, en particulier à l'acquisition de compétences spécialisées, mais pour les autres, le mérite s'acquiert par des accomplissements personnels, des prouesses qui démontreraient une force de caractère. Dans un cas, vous avez un potentiel dont on peut attendre des réalisations, dans l'autre, des faits, des actes réellement accomplis. Et si l'on suit bien ce Wilfred McClay dont je parlais, ce sont les seconds qui manquent aujourd'hui aux États-Unis. Des caractères de la trempe d'Abraham Lincoln, né dans une famille très pauvre, garçon de ferme mais autodidacte et dévoreur de livres. Des personnages qui pouvaient gravir les échelons de la vie politique en commençant par le bas, parce qu'ils démontraient à chaque étape de leur carrière leur capacité à prendre soin de la communauté dont ils avaient la charge. Or, la méritocratie actuelle est composée de nomades du mérite qui ne se sentent pas responsables de leurs concitoyens. Elle est recrutée par quelques grandes institutions sur la base de tests standardisés. Elle brandit ses diplômes comme des références l'autorisant à occuper les meilleurs postes, mais sa culture est vide et ses modes d'action formalistes. En outre, comme l'avait fait remarquer Christopher Lash dans un livre devenu fameux, La révolte des élites et la trahison de la démocratie, les élites tendent à s'isoler du reste de la société dans des enclaves protégées. On retrouve ces critiques en ce moment un peu partout dans le monde. Mes partenaires de World Crunch m'ont fait découvrir un article de Alan Posner paru dans Die Welt en juillet. Le titre « End der Meritocratie », fin de la méritocratie, qui offre un condensé de toutes les critiques qu'on peut adresser à nos fameuses élites cognitives. On en parle demain ?
Eh bien, ça sera avec grand plaisir. C'est absolument passionnant, toute cette série, Brice, autour de ce concept de méritocratie qui varie beaucoup d'une région à l'autre, d'une culture à l'autre. Merci beaucoup, Brice. On peut d'ailleurs retrouver vos chroniques sur la page de Culture Monde, la page de France Culture, www.franceculture.fr.